Les femmes et le féminisme, François Mitterrand, psychiatre, c'est la règle de trois de Laure Adler. Historienne des femmes et du féminisme, elle publie en 1979 une thèse consacrée aux ouvrières journalistes de 1830 à 1850.
Pour la première fois, des femmes ensemble ont géré, distribué, écrit, descendu dans la rue pour vendre leur journal.
Depuis, Laure Adler a consacré de nombreuses biographies aux femmes qu'elle admire, Marguerite Duras, dont le livre « Un barrage contre le Pacifique » lui a, dit-elle, sauvé la vie, Françoise Giroud, Hannah Arendt, Charlotte Perriand ou encore la philosophe Simone Veil. Lorsqu'en 1989, François Mitterrand lui propose le poste de conseillère culturelle auprès de l'Élysée, elle ne se sent pas légitime. « Si je pense que vous savez le faire, c'est que vous saurez », avance le président. Elle y reste 3 ans, rédige des notes, travaille dans l'invisibilité absolue et s'intéresse de près au rouage du pouvoir. « J'ai passé la période à écouter, comprendre, observer », dit-elle. En 1995, lorsque François Mitterrand quitte l'Élysée après 2 septennats, Laure Adler tire de sa propre expérience un récit intitulé « L'année des adieux ».
François Mitterrand, c'est comme un secrétaire anglais du XVIIIe siècle. Il y a des tiroirs et derrière les tiroirs, il y a encore des tiroirs et derrière les tiroirs, il y a encore des tiroirs secrets.
Au début des années 70, Laure Adler voulait embrasser une carrière de psychiatre. Recalée au concours de médecine, elle en éprouve une tristesse infinie, puis entre à France Culture un peu par hasard. Sa carrière dont les médias l'amènent à des postes à responsabilité, directrice des programmes culturels et documentaires de France Télévisions, directrice de France Culture au début des années 2000, mais son plus grand plaisir consiste à recevoir des invités en tête-à-tête, comme aujourd'hui sur France Inter avec L'Heure Bleue ou pendant sa période Cercle de minuit sur France 2 entre 93 et 97.
Plus vous avancez dans la vie, plus vous avez la force de vous abandonner, est-ce que c'est vrai?
Oui, sûrement, parce que peut-être moins d'inquiétude. Peut-être plus l'inquiétude du tout. Même pas l'inquiétude de mourir.
Le livre que Laure Adler publie aujourd'hui se termine par cette citation de Simone de Beauvoir. « Moi, je suis devenue une autre alors que je demeure moi-même. »
La voyageuse de nuit, Laure Adler chez Grasset. Non, ça n'était pas un tombeau, c'était une rétrospective de vos activités et de vos couleurs capillaires, Laure Adler.
Oui, oui,
ça a beaucoup
très
varié.
Blonde, vous voyez.
Laure Adler, vous dites « je viens d'avoir 70 balais, il est temps que j'arrête ». Vous considérez que le langage approprié pour vous désigner dans votre classe d'âge serait de dire quoi? Une vieille, une ancienne, une senior, une femme du troisième âge?
Une
puisque
vieille.
On est dans ce questionnement sémantique.
Mais justement, une vieille. Vieille. Puisqu'on n'utilise pas, on n'ose pas utiliser les mots qui désignent notre classe d'âge, notre condition, je dirais une vieille. Et je revendique cette vieillesse qui n'est pas une stigmatisation. Qui
ni
n'est
une
pas,
déperdition.
Ni une déperdition, en tout cas pour le moment, mm-hmm. peut-être demain matin. Mm-hmm. Mais en tout cas, tout se passe avec les mots aussi. Hein. Quand on n'utilise pas les vrais mots pour désigner les vraies choses, ça veut dire qu'on évacue le problème. Eh bien oui, je crois qu'il y a une fierté à être vieille. Je ne l'aurais pas dit il y a 3-4 ans.
Vous ne l'auriez pas dit quand vous aviez 68 ans.
Oui, non,
vous
mais c'est vrai.
Vous avez l'honnêteté de le préciser.
Oui, j'aurais dit, je ne suis plus très jeune.
Ou vous auriez dit comme Cécile Sorel, je suis riche d'années, par exemple.
Ouais. Ça c'est trop intello
oui,
pour moi.
C'est un peu trop tarabiscoté. Laure Adler, ça fait 20 ans, la voyageuse de nuit, écrire, réfléchir à cette condition qui est notre condition à tous, s'il y a bien quelque chose qui nous concerne tous, c'est que nous vieillirons tous et nous mourrons. Ça fait 20 ans que ça vous travaille, depuis vos 50 ans, il y a eu un moment comme ça dans votre existence où...
C'est vrai que passer le cap de la cinquantaine a été quelque chose de compliqué pour moi. C'est la première fois que ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire l'âge...
Dans le miroir ou non, les
non,
autres
non, non, autres. C'était vraiment le gong du 50. Parce que je savais que je n'arriverais pas à 100. Et donc, j'étais plus au mi-temps de ma vie. J'étais dans les 2/3 de ma vie. Donc, j'ai commencé à réfléchir à mon âge. J'ai organisé mon anniversaire. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé pour la première fois à quelle heure suis-je née. Je me suis préparée à l'heure de ma naissance pour m'allonger dans l'herbe et lire le livre que j'aime le plus au monde.
Qui est ?
Marcel Proust, Le Temps Retrouvé.
Il vous reste du temps.
Déjà
alors,
à 50 ans.
Il vous
déjà
reste du 50. Temps. Benjamin.
Vous citez l'historienne Mona Ouzouf, vous dites elle a tout dit en disant ça complique la vie physique que de vieillir, mais ça facilite la vie morale. En quoi ça facilite la vie morale ?
Il y a une forme de désencombrement qui se fait à l'insu de vous. Enfin, je ne sais pas si je suis faite comme tout le monde, mais en tout cas, on passe sa vie à être dans le regard des autres, à essayer de se placer sur l'échiquier social, à essayer de continuer à avoir un boulot, à essayer d'être une bonne mère, à essayer d'être une bonne épouse, à essayer d'être une bonne amoureuse. Et petit à petit, les barrages cèdent. Mmh. Mais vous ne décidez rien. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, je pense, avec l'expérience de la sédimentation des années. Mmh. Il y a quelque chose qui fait que vous retrouvez une forme de jubilation de la vie en vous disant « qu'est-ce que j'aime le plus au monde ?» Vous savez très bien, chacun d'entre nous sait ce qu'il aime le plus au monde et ce qu'il fait par fausse obligation. Vous avez considéré pendant 40 ans que ce sont des vraies obligations. Et là, tout d'un coup, vous dégagez le terrain.
Vous simplifiez.
Voilà, vous simplifiez et vous passez votre temps, un temps maximal, à faire ce qui vous plaît, ce qui vous enrichit, et aller plus vers les autres par un don de soi que plus par obligation de visibilité sociale.
Laure Adler, vous avez évoqué votre vie amoureuse à l'instant. La vie amoureuse, le sexe à 70 ans, ça existe ?
Ben oui, ça existe.
Non, mais je vous pose
c'est
la question.
C'est un tabou
parce que,
en France, non, mais c'est pas un partout tabou. Dans le
Parlons-en.
Reste de l'Europe, on en parle.
Parlons-en. Parlons-en. Vous dites, moi, j'aimerais instaurer le slow sex, le slox, le slow sex. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que vous vivez avec votre amoureux?
Oui,
votre
c'est, ce que
c'est
je
quoi
vis depuis maintenant très longtemps.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que nous vivons, mais ça, ça va avec le combat féministe aussi, nous vivons dans une société encore terriblement patriarcale, où nous avons des schémas conscients et inconscients, relayés par les réseaux sociaux, relayés par les injonctions publicitaires, relayés par un inconscient collectif que nous partageons toutes et tous, y compris les plus jeunes femmes d'entre nous, qui nous induisent que l'obligation amoureuse, c'est la domination virile, c'est la pénétration rapide, c'est le sexe extrêmement rapide, c'est la conquête amoureuse, allons-y pour la position du mercenaire.
L'homme qui propose à la femme qui dispose.
Voilà, donc, et ciao et bon baiser.
Donc des caresses,
et voilà.
Des préliminaires et
on
chevauche
voilà.
Son
et
homme,
la considération, et l'apprivoisement,
voilà.
Et la sensualité.
Et la douceur.
Et le temps.
Et le temps.
Et le temps. Faisons du temps notre allié, puisque de toutes les façons, il passe à travers notre corps et notre cœur. C'est un allié, c'est pas un ennemi, c'est pas la peine de continuer à lutter de façon lamentable contre lui.
La lutte
mais
est
au
illégale.
Contraire, bah, oui. Non, ça dépend comment on vit ce temps-là. Revenons à Marcel Proust.
Non, on va revenir au sexe
oui,
tabou
sexe
chez les plus de 70 ans. On en parle avec vous, Nadia.
Oui, parce que Simone de Beauvoir, que vous aimez tant, a écrit dans son essai La vieillesse, que vous aimez beaucoup également, que ni l'histoire ni la littérature ne nous ont laissé de témoignages valables sur la sexualité des femmes âgées. Le sujet est encore plus tabou que la sexualité des vieux mâles. Et briser ce tabou, justement, c'est l'ambition de la réalisatrice de porno et dit inclusif, Olympe de G. Elle a réalisé un film qui s'appelle Une dernière fois, que vous avez vu peut-être, qui est
oui.
Diffusé sur Canal+, vous l'avez vu.
Oui.
Il raconte l'histoire de Salomé, 69 ans, qui organise la dernière fois où elle va faire l'amour. Le personnage est incarné à l'écran magnifiquement par Brigitte Lahaie, 64 ans. Elle n'avait pas tourné dans un film porno-érotique depuis 95. Les femmes que vous avez interrogées pour ce livre, elles vous disent plutôt l'inverse. Elles vous disent que justement la vieillesse, elle leur a permis de se débarrasser de ce fardeau que peut représenter la sexualité. Les chiffres disent l'inverse. On sait que visiblement la moitié des plus de 70 ans se disent sexuellement actifs, ils ont 2 à 3 rapports par mois. Pourquoi vous avez commencé à l'évoquer, pourquoi est-ce que le tabou existe en France et pas tellement dans d'autres pays de cette sexualité des vieux?
Il existe d'autant moins ce tabou dans d'autres sociétés comme la Belgique, la Suisse, ouais. Où il y a des accompagnants
dans les maisons de retraite,
qui sont des personnes qui viennent faire l'amour avec ces personnes dites âgées parce qu'elles en éprouvent le désir ou le besoin. Au Brésil, c'est très courant aussi. D'ailleurs, il y a eu un film magnifique qui rendait hommage à une femme extrêmement âgée qui téléphonait de temps en temps quand elle avait des désirs impérieux sexuels. Et le jeune homme magnifique qui venait lui rendre visite est tombé amoureux d'elle. Donc une love story a commencé à s'installer. Alors, je pense que c'est une histoire de génération. Je pense que c'est une histoire aussi de domination de notre catholicisme à l'intérieur de notre inconscient collectif où le sexe reste tabou et encore plus quand on est âgé. Je pense aussi que nous avons une vision de notre propre passé, y compris ancien. Prenons le Moyen-Âge.
Non,
les sorcières, étaient lubriques, les sorcières étaient en train d'aller chercher les jeunes gens pour se repaître de leur corps, etc., etc. Michelet a très bien parlé de cela. Et tout ce qui touche, les vieillards sont lubriques, les vieilles femmes sont 10 000 fois plus lubriques que les vieillards. Et donc, il y a une espèce d'omerta sur cette sexualité.
Une dernière question sur les vieillards et les vieilles femmes. Dans les EHPAD, je crois qu'un de vos parents est dans un EHPAD, maison de retraite, terme vilain, cet acronyme. Pendant le confinement, les familles n'avaient pas accès à ces personnes âgées, à ces vieillards. Certains en ont beaucoup souffert parce que 3 mois, quand on a 90 ans, c'est pas la même chose que quand on a 50 ans. 3 mois sans lien, ça peut déshumaniser. Quel est votre sentiment ?
Mon sentiment, c'est que les tutelles politiques qui ont édicté cette interdiction pour des raisons sanitaires évidentes se sont trompées et qu'elles l'ont d'ailleurs reconnue d'une certaine façon. Je pense que quand on atteint un âge hors d'âge, ce que les Américains appellent les « oldest oldest », eh bien la solitude, ça tue. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup de morts du Covid-19, mais il y a eu aussi beaucoup de morts à cause de la solitude. Emmanuel Macron l'a compris à cause de courriers qu'il a reçus. Et j'espère, au moment même où nous parlons, que les EHPAD ne se refermeront pas du tout et permettront aux personnes âgées d'être considérées comme des personnes responsables. Et à l'intérieur des EHPAD, les gestes barrières, ça existe, les masques, ça existe, et la vie, ça existe, et l'intensité de la vie, ça existe. Et la vie, c'est les autres.
Merci, Yamine.
Allez.